France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Julia Faure. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Cartagena de Reina Tropical. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est toujours au Japon pour nous faire découvrir la ville à Kujoyama, à Kyoto. Elle nous fera découvrir ce soir l'art du Kyudo et l'univers du tuning nippon. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dali Yaha à la prise de son. Bonsoir Julia Faure.
Bonsoir Arnaud Laporte.
On pourra vous voir dès demain au cinéma dans Et plus si affinité, un film d'Olivier Ducret et Wilfried Mehans qui a reçu notamment le prix spécial du jury et le prix du public au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Je comprends ces prix pour un film très bien écrit, très
et
bien interprété, notamment par Isabelle Carré et Bernard Campan qui ont eu eux des prix d'interprétation que Pablo Poli et vous-même auriez tout autant mérité. On va bien sûr parler de ce film, on va voir que votre palette de jeux est très vaste, en revenant sur quelques moments importants de votre parcours, sur quelques rencontres professionnelles importantes, de votre enfance, de votre adolescence, je ne sais rien, jusqu'à votre entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Alors qu'est-ce qui vous a conduit sur cette voie, Julia Faure? Devenir comédienne, c'est pas un chemin facile. Qu'est-ce qui a allumé la flamme?
Mais je pense que la première étincelle, c'est quasiment un malentendu. C'est-à-dire que je suis allée au théâtre avec mes parents quand j'étais enfant. Et l'espace scénique, je pense, m'est apparu comme un espace archi-protégé. Et où il pouvait rien m'arriver. Enfin, j'imaginais que les acteurs là-bas étaient hors d'atteinte, hors de portée. Et que c'était un espace très désirable, quoi. Alors qu'évidemment, pas du tout. C'est l'espace le moins protégé du monde, où on est le plus exposé au jugement, à l'échec, à des humiliations. Mais à l'époque, quand j'étais enfant, je me suis dit, tiens, et puis en plus, ça avait l'air beaucoup plus vivant. Moi, j'étais dans le public, dans l'obscurité, et la scène était illuminée. Et les gens là-bas, c'était Cyrano de Bergerac avec Jacques Weber. Et les gens sur scène avaient l'air tellement vivants et vibrants. Et je me disais, mais c'est beaucoup mieux que d'être dans les ténèbres du public, quoi.
Vous avez demandé à faire des cours de théâtre, du coup, ou pas?
Et alors après, en fait, oui, j'ai demandé à faire des cours de théâtre. Et malheureusement, vers 10 ans, j'ai atterri dans un cours d'improvisation. Mais moi, c'était pas du tout ça qui me faisait rêver. Moi, je voulais des textes. Et l'improvisation, ça m'a pétrifiée parce que j'avais l'impression qu'on me ramenait à moi-même, alors que moi, je voulais évidemment m'arracher à ce que j'étais, qui me plaisait pas beaucoup. Et donc, je me débrouillais à chaque fois que je devais rentrer sur scène pour tuer tout le monde ou jouer la muette de service. Et enfin, à 13 ans, je suis rentrée dans un cours privé. Et là, j'ai joué avec mes deux tresses et ma jupe plissée, j'ai joué la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, donc qui avait déclenché ma première petite étincelle quand j'étais enfant. Et là, ça m'a plu et j'ai joué avec tout le panache dont j'étais capable à 13 ans. Et puis après, moi, j'ai vécu dans pas mal de pays entre 10 ans et 17 ans. J'ai vécu en Suisse, aux États-Unis. J'ai vécu à Cannes, qui est un pays en soi.
Oui.
Et à Paris, bon, j'ai fini, et puis j'ai traversé aussi pas mal de vacances d'été, de très longs étés en Allemagne et tout. Bref, à 17 ans, je suis enfin arrivée à Paris. Ce qui était vraiment mon objectif de vie quand j'étais enfant, c'était de enfin arriver à Paris et que la vie démarre, quoi. Et j'ai fait un an ou deux dans un cours privé, et après j'ai passé le concours du conservatoire et...
Et vous l'avez eu, ce qui est quand même pas donné à tout le monde déjà. Les années conservatoires, elles vont être riches, de belles rencontres. On va beaucoup parler de cinéma, mais on va quand même commencer par le théâtre, Julia Faure, puisque au cours de votre cursus, vous avez eu l'occasion de jouer Les Géants de la Montagne de Pirandello, dans une mise en scène du très grand Klaus Michael Gruber, avec l'immense Michel Piccoli comme partenaire. On imagine que l'expérience a dû être marquante. Alors avant d'en parler, on va écouter Michel Piccoli évoquer cette aventure. C'était au micro de Lucien Atoun sur France Culture en 2001.
Mais alors, vous savez, ce travail qu'on a fait au conservatoire avec Pirandello, les élèves, et moi, acteur...
aîné, acteur aîné, disons.
Acteur aîné, voilà. Et Gruber, magicien du théâtre, un des magiciens du théâtre. Mais ça s'est fait, personne ne savait où il était. Les élèves se doutaient sans doute qu'ils allaient travailler avec ce qu'on appelle un grand acteur, un grand metteur en scène, mais ni ce grand metteur en scène, ni ce grand acteur ne se sont pris pour...
Pour des grands...
Absolument pas, nous étions, petit à petit, on s'est aperçu que nous étions au même niveau. De faire un essai, de rechercher quelque chose, de faire encore une fois un exercice complètement luxueux. Répéter 4 semaines pour jouer 7 fois. Pourquoi 7 fois ? Parce qu'il y avait 7 actrices pour le rôle principal, donc Gruber avait décidé qu'on jouerait 7 fois. Chaque représentation avait une actrice différente. Et alors, vous allez me dire, mais c'est tout à fait incompréhensible ce que je vais vous raconter, mais je me souviens de la première lecture qu'on a faite, et ça a marqué tout le monde. Pas seulement moi, l'acteur intellectuel. Gruber a dit, écoutez, je voudrais que ce spectacle soit... en faisant un geste de sa main d'un oiseau, d'un papillon qui passe. Vous me direz, les gens qui vont entendre ça, ils vont se dire, écoutez, là c'est vraiment un intellectuel dangereux, ou alors, c'est pas un métier. S'il suffit de faire le bruit d'un papillon pour expliquer ce qu'on va jouer, ça paraît très bizarre. Mais c'est magnifique de voir un homme de cette prestance avoir un geste comme ça d'innocence, si je puis dire. Et tout le monde a compris. Après, il a parlé beaucoup plus, bien sûr. Mais ça a été la base du spectacle. Mais il faut toujours, toujours, toujours remettre en cause des choses. Rechercher, rechercher. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on va pas se tromper? Et puis si on s'est trompé, tant pis. On a décidé de faire ça, il faut le faire, on le fait. Et puis, si on est émerveillé et puis qu'on fasse des choses qui émerveillent un certain nombre de personnes, il ne faut pas non plus se dire qu'on est un émerveilleur à vie.
Julia Fort, je vous regardais écouter avec beaucoup à la fois d'intensité et d'émotion ces paroles de Michel Piccoli. Quels souvenirs vous avez-vous de ces géants de la montagne?
Un éblouissement. Vraiment, c'est-à-dire j'ai été subjuguée. Et puis, en fait, pour tout vous dire, mon premier rêve d'actrice, c'était de jouer un jour avec Michel Piccoli. C'est-à-dire que c'était, quand j'avais 10 ans, c'était mon amour secret, mon plus grand ami imaginaire. J'avais l'impression de... Évidemment, je me disais pas ça à 10 ans, mais avec le recul, une force morale qui me rassurait énormément, quoi. Et puis, bon, bref, ce miracle arrive, je le rencontre, il vient faire ce spectacle au conservatoire, lui qui n'avait jamais eu le conservatoire, avec Klaus Michael Gruber, en plus, génie entre tous les génies, enfin, vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'était une sorte de Visconti du théâtre, quoi, c'était vraiment un surhomme du théâtre, quoi. Ils arrivent tous les deux, et Michel, vraiment, comme un colosse, et il joue Cotrone, le géant de la montagne. Et nous, on joue une petite troupe d'acteurs, et moi, je joue l'actrice, et en effet, on joue chaque fille une soirée. Ce qui était très beau, c'était que c'était totalement éphémère, en fait. C'était vraiment l'essence du théâtre jusqu'au bout. C'est-à-dire, on ne jouait qu'une seule fois. Alors, ça peut paraître absurde, comme il dit, en même temps, il n'y avait rien de plus juste que de jouer qu'une seule fois et d'être destiné à l'oubli après. C'était un vertige incroyable. Et puis, par rapport à ce qu'il dit, et la beauté de Michel Piccoli, c'est que c'était quelqu'un d'une gourmand de facéties, en fait. Et que nous, on jouait sérieux comme des papes. On avait débarqué à cette première lecture et vraiment, on était dans un état, dans un esprit de sérieux total. Et que lui, tout de suite, il nous a montré, je sais pas, toute sa malice, son goût pour la farce, il cherche, en effet, tout le temps, il se trompe. Oui, il se trompe. Enfin, il se trompe. C'est-à-dire, Michel Piccoli qui se trompe, c'est pas très grave, quoi. Mais il y avait quelque chose, il dédramatisait tout. Il y avait une légèreté en même temps avec Gruber, quelque chose de sacré aussi sur scène immédiatement, un mélange de profane et de sacré qui était sublime. Et en plus, par rapport. Pardon, je continue, c'est trop long.
Ah, non, c'est tellement bien.
Non, mais c'est-à-dire que ça a été le regard de Gruber sur nous, acteur et sur moi, en tout cas tel que je peux en parler là aujourd'hui, c'était vraiment le premier révélateur en fait de ce que j'étais dans ma jeunesse. C'est-à-dire qu'au lieu de nous inculquer des lois et des règles et des préceptes, de le jeu c'est ci et ça, il faut réfléchir, c'est cérébral et tout, là d'un coup, ce qui lui importait à lui, c'était pas d'être un grand pédagogue, c'était de nous regarder et de nous voir dans notre jeunesse et de nous transmettre. C'est ça le plus grand cadeau qu'on peut faire, je pense, à un acteur qui débute, c'est de le révéler à lui-même, en fait. Voilà.
Alors, le théâtre, Julia Fort, vous allez y jouer au tout début de votre carrière, plusieurs productions, mais sauf erreur, il faut ensuite attendre 2016 pour vous y retrouver. Alors, dans une sorte de grand écart qui en dit long sur cette palette que j'évoquais au tout début de cet entretien. D'une part, dans Croque-Monsieur, un grand classique du boulevard signé Marcel Mitois, mise en scène de Thierry Cliffat au théâtre de la Michaudière. Et la même année, donc, Qui a peur de Virginia Woolf, d'Edouard Albee, mise en scène par Alain Françon, au théâtre de l'œuvre. C'était avec Dominique Valadiec, Vladimir Yordanov et Pierre-François Garel. Et j'ai un souvenir très fort de cette production qui était vraiment d'un équilibre, d'une intelligence. Enfin bon, Françon, voilà, on sait qui c'est aussi. Vous avez retrouvé Françon et Valadier dans le mouvement psychologique de Nicolas Doutet. Mais ce retour sur les planches en 2016, comment est-ce que vous l'avez vécu?
J'étais très surprise d'entendre Alain Françon un jour au téléphone qui m'appelait pour me proposer de prendre un café pour parler de cette pièce. Et en fait, j'ai appris que c'est Vladimir Yordanov qui lui avait parlé de moi. Et je l'ai vécu comme un saut spatio-temporel, parce que j'avais eu Valadier comme prof au conservatoire, mais bon, j'avais 18-19 ans, et là, d'un coup, je l'ai retrouvé, je sais pas, 18 ans plus tard, quasiment, et c'était très effrayant. Les deux premières journées de répétition, j'étais très effrayée. J'avais vraiment l'impression de me retrouver à 18 ans au conservatoire. Et puis, en fait, évidemment, quand on joue face à des acteurs, des partenaires aussi intelligents que Dominique Valadier, Vladimir Yordanov et Pierre-François Garel, on pense plus aux obstacles, en fait. On avance avec eux, quoi. On se laisse porter par eux aussi. Et puis, Alain, c'est drôle parce que quand j'étais au conservatoire et j'ai commencé avec Dominique Valadier, c'était devenu un rêve de travailler avec Alain Françon. Puis au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, allez, oublie, ça n'arrivera jamais. T'es pas du tout de sa famille d'acteurs. Parce que je le voyais comme quelqu'un de très cérébral. Et moi, je me vois pas du tout comme quelqu'un de cérébral. Et puis finalement, bon, le rêve est arrivé bien des années plus tard. Et finalement, il nous fait pas du tout travailler dans la cérébralité. C'est très concret avec lui. Et c'est très dans le présent. Il y a presque quelque chose qui rejoint le cinéma. C'est-à-dire, il y a une vérité de l'instant qu'il exige, même s'il nous fait répéter 36 000 fois le même instant pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'on était en train de faire et pourquoi on le faisait. Et puis, c'est un architecte de la parole, de l'espace scénique, donc il nous aide, il nous donne un cadre qui est très, très sécurisant et qui fait qu'on peut se promener, en fait, dans ce cadre-là, après. Voilà.
Alors, j'ai fait un grand bond, évidemment, en avant dans le temps pour évoquer le théâtre, mais c'est bien au cinéma, cinéma qui vous a le plus accaparé au fil des années. Alors, au conservatoire, vous avez aussi Philippe Garrel comme professeur, il vous a choisi pour incarner le rôle de Lucie dans son film Sauvage Innocence, sorti en 2001, comme souvent avec Garrel, c'est un récit gigogne, parce que la fiction, la réalité nourrit beaucoup la fiction. Il y a ce personnage de cinéaste qui ressemble pour beaucoup à Garrel, tant dans son rapport à l'art que dans sa biographie. Alors, expérience particulière, j'ai lu une interview croisée entre vous et Mehdi Bellage-Kassem au moment de la sortie, et ça avait l'air assez tendu, en fait, entre vous.
Oui,
bon, je ne sais pas à quel point vous souhaitez en parler aujourd'hui, mais je m'en remets à vous. On peut glisser vers la suite.
Oui, le travail m'intéresse plus que... Le travail avec Garrel m'intéresse plus que les incidents de tournage, en fait.
Alors... Mais il y aura ensuite un court, puis un long métrage avec Thierry Jauss. Il y aura Yann Samuel, il y aura Rafi Chart. La rencontre.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi ça vous fait rire?
Oui, parce que là, c'est vrai qu'en termes de grand écart.
Oui, mais c'est bien. Mais c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup chez vous. Mais il y a aussi évidemment une rencontre marquante, sans faire offense aux autres, qui a lieu avec Noémie Lvovsky pour Camille Redouble, qui vous vaudra une nomination au César des meilleurs espoirs féminins. Alors c'est drôle, Julia Fort, parce que je me suis aperçu en préparant notre entretien que vous étiez la 12e interprète de ce film que je reçois dans cette émission.
Ah ouais.
Faut dire que parmi...
Oui, c'est vrai qu'il y avait une...
Il y avait du beau monde. J'ai la chance d'en recevoir souvent. Et parmi ces interprètes, la cinéaste elle-même, Noémie Lvovsky, que je recevais en mars 2022. On va écouter cet extrait.
Peut-être que je me mets toujours, en tout cas dans les films que j'écris, que je réalise, peut-être que je me mets toujours à côté de la tragédie. J'ai comme une espèce d'incapacité à raconter une tragédie. Alors comme spectatrice ou comme lectrice, je peux adorer certaines tragédies. Et puis je les vois aussi dans la vie réelle. Ah oui. Et je les vois ou je peux même les vivre parfois. Mais je me mets à côté de ça quand je raconte une histoire. Alors peut-être que cette apparente légèreté ou ce goût pour la comédie que je peux avoir, mais une comédie qui est toujours sous-tendue par des choses terribles.
Alors, évoquez évidemment son travail de cinéaste dans son ensemble, mais ça s'applique aussi à Camille Redoum, à bien des égards. Qu'est-ce que ce tournage avec Noémie Lvovsky vous a permis, vous, d'accomplir, Julia Faure, ou d'ouvrir dans votre parcours de comédienne?
Ben, moi, ça a été de découvrir ou de m'autoriser d'une certaine façon, grâce au regard de Noémie, sur moi et sur le monde, sur les êtres, en fait, qu'elle a, hein, son regard qui est si particulier, de m'autoriser à montrer tout ce que je cachais jusque-là. C'est-à-dire, voyez le personnage que je joue dans le film, qui est cette petite fille bigleuse, avec sa queue de cheval de travers sur la tête, qui se sent pas du tout à sa place nulle part, qui a juste la chance d'avoir trois copines extraordinaires. Ben, moi, je n'osais pas montrer ça de moi avant. Je me disais, il y avait quelque chose de honteux en moi que j'ai vécu quand j'étais petite, quand j'étais enfant, enfin, c'est-à-dire le regard des autres qui me pesait tant, et que je pensais que le cinéma devait réparer, en fait, et devait me rendre plus belle que je ne me voyais en réalité. Et là, d'un coup, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de plus honteux ou de plus monstrueux dans ma tête, en tout cas, en moi, bah, devenait le plus passionnant et le plus aimable aux yeux de Noémie. Et ça, c'était assez extraordinaire. Et c'est quelque chose qu'elle donne, je pense, à tous ses acteurs, d'ailleurs, parce qu'elle travaille principalement là-dessus. C'est pas les choses lisses et bien sous tout rapport qui l'intéressent. C'est justement ce qu'on essaye de cacher. Et ça, c'est merveilleux, de quelqu'un qui vous aide à aimer ce qu'on essaie de cacher jusque-là, quoi. Qui le rend un peu bouleversant, quoi. Et puis en plus, ce qu'elle dit, c'est très beau, parce que je rebondis un peu là-dessus, mais moi, c'est ce que j'adore dans ces films, parce que quand on me dit « Ah, mais vous avez déjà joué dans des comédies avec Noémie Lvovsky ?» Oui, d'une certaine façon, c'est une comédie, mais en même temps, on a toujours envie de pleurer en même temps qu'on rit quand on voit ces films. Et ça, je trouve, moi, c'est un équilibre de comédie que j'adore. Bon, c'est sombre, hein, mais c'est très vivifiant aussi.
Un peu plus tard, 2016, on vous retrouve dans le film Tout de suite maintenant de Pascal Bonnizet, un film dans lequel vous chantez.
Oui.
Il y a fort deux chansons, paroles de Pascal Bonnizet, musique de Bertrand Burgala. Alors problème, vous n'aviez jamais vraiment chanté avant. Alors quel type de travail ça vous a demandé? Là encore, qu'est-ce que vous pensez que le chant aussi vous a apporté finalement, ou est-ce qu'il a nourri votre art de la comédie?
Non, je pense que je suis pas arrivée à un niveau où ça pouvait vraiment nourrir mon art de la comédie.
Dans l'interprétation d'une chanson, l'interprétation, ça compte.
Oui, mais ça passe surtout par le corps. Alors ça, c'est bien, mais non. Moi, il fallait vraiment que j'atteigne des notes que je me pensais pas capable d'atteindre. Puis surtout, j'avais dit à Pascal que, bien sûr, je maîtrisais le chant, que je chantais comme toutes les actrices françaises et tout ça. Donc Bertrand Burgala m'a présenté une coach géniale, une chanteuse en fait, qui s'appelle Élise Louise, qui était merveilleuse et qui m'a aidée à atteindre ces fameuses notes. Et puis après, sur le plateau, non, ça faisait partie du personnage. En fait, je me suis dit, moi, ce qui comptait pour moi, c'était surtout, j'allais discuter avec Pascal, mais qu'est-ce qu'elle chante, cette fille, en fait, avant que Bertrand Burgala se mêle de tout ça. Et c'était ça qui comptait. Après, une fois que je savais ce qu'elle chantait, non, je peux pas dire que ça ait déployé un...
T'as pas donné envie de continuer non plus?
Non, je me suis pas dit que non. Ah bah non, mais ceci dit, non.
Ah.
Non. J'allais dire...
Quelque chose
non.
Secret. D'accord, on le saura plus tard.
Peut-être un jour, oui.
On va profiter quand même de ce moment pour découvrir votre choix musical. Alors, qui s'est porté sur une chanson de Michael Jackson, Maria, You Were the Only One. Alors, il y a plusieurs raisons à ce choix, Julia Faure, lesquelles?
Oh, bah parce que ce morceau, pour moi, c'est un des plus beaux morceaux du monde. Je sais pas, c'est, à chaque fois que je le mets, c'est comme un miracle. C'est-à-dire, comment un garçon de 10-12 ans peut chanter à la fois la joie, le chagrin, l'amour, enfin, par où ça passe, quoi, d'être lié comme ça entre le ciel et la terre à 10-12 ans. Je trouve que c'est sublime. Et c'est un peu du gospel aussi, enfin c'est de la soul du gospel, c'est sublime. Voilà. Enfin ouais. Je vous laisse. Et puis je me suis dit d'ailleurs que c'était pour les auditeurs qui peut-être connaissent pas la chanson.
Bah, vous avez bien raison. Voilà. On écoute Maria. Maria, par le tout jeune Michael Jackson, 13 ans. Alors, comme tous vos rêves se réalisent, Julia Fort, vous avez peut-être chanté comme Michael Jackson un de ces jours. Non, c'est un rêve
De chanter comme Michael Jackson, ouais. Oui. Bon, c'est un rêve vraiment...
Bah oui, mais il réalise vos rêves. Donc, peut-être que ça va venir. Mais restons, puisqu'on entendait ce jeune homme chanter comme cela, on va rester sur les questions d'interprétation pour savoir comment vous construisez un rôle pour s'approcher de ce film qui sort demain et plus ses affinités. Mais pour savoir si vous avez une méthode, parce qu'elles sont très nombreuses évidemment, elles peuvent changer d'un projet à un autre, elles peuvent changer aussi au fur et à mesure d'une carrière. Alors, un exemple avec une consoeur, Nina Meurice, qu'on peut voir en ce moment dans la série La Fièvre, sur Canal+, génial. Qui est vraiment très très bien. Je la recevais en octobre 2023, ce court passage.
Moi, par exemple, c'est par le travail en amont. C'est parce que je crois que j'ai assez bordé mon personnage dans tous les recoins possibles, de la musique qu'elle écoute à la boisson qu'elle boit, à un parfum parfois, à inventer une maison qu'elle aurait, son histoire, à m'être dit qu'elle est profondément l'enjeu de la scène. Enfin, en tout cas, à aussi m'être bordée à un endroit où il faut pas que j'aille parce que je serai vraiment pas dans le personnage. C'est-à-dire que même si mon prêt peut être très grand, je sais quel est l'endroit où je peux jouer. Et après, effectivement, et moi c'est ce que j'adore, c'est l'abandon dans l'instant présent. Mmh. C'est vraiment... J'avais écouté une émission sur l'auto-hypnose et je me suis dit, bah tiens, c'est un peu ça notre métier, c'est comment je me persuade que ce qui est en train d'arriver arrive et je fais avec le présent du moment.
Alors ça, c'est la méthode de Nina Meurice, au moins pour l'instant. Est-ce qu'il y a une méthode, Julia Faure ?
Non, mais c'est drôle parce que je me disais en l'écoutant qu'on cherche la même chose, c'est-à-dire elle parle d'abandon, et alors on prend pas du tout les mêmes chemins, parce que moi je crois que je fais exactement le contraire. D'elle, je crois pas tellement au personnage, et je me dis que si je borde trop de choses, je vais moins réussir à me laisser surprendre, en fait, sur le moment. Donc si je me dis, ah, elle porte tel parfum et tout, déjà, j'en sais rien, je sais même pas. Elle n'existe pas, en plus. Je veux dire, c'est
de... Vous n'écrivez pas les biographies de vos personnages ?
Non, pas du tout. Après, si un metteur en scène me le demandait, il y a des metteurs en scène parfois qui demandent ça, d'écrire un journal intime. Sans doute, ça me passionnerait. Mais moi, je le fais pas spontanément. Moi, je fais en sorte de... Bon, déjà, en fait, la base, mais là, c'est honteux même de dire ça, c'est vraiment, j'apprends mon texte par cœur, par cœur, par cœur.
Ah ben non, mais c'est pas honteux.
Et puis, non, mais je veux dire, c'est tellement la base que bon. Oui. Mais moi, le travail, en fait, commence vraiment là, parce que ça infuse, et puis j'ai besoin que ça me travaille inconsciemment, j'ai besoin que ça me travaille quand je dors, en fait, quasiment. Et puis après, je lis 150 fois mon texte. J'essaie de réfléchir, parce que je pense que j'ai pas vraiment de méthode. Et après, ce que vont faire les autres partenaires, c'est vraiment ça, surtout, qui va me guider le plus. Parce que vraiment, je me dis, j'ai l'impression que ça me limite, en fait. Si je me dis, le personnage est comme ci, comme ci, comme ça, ça va me créer des barrières. Après, si par exemple, j'ai envie de réagir autrement pendant la scène et que je me dis, ah ben oui, mais non, c'est pas possible, il porte tel parfum, alors il peut pas faire ça. Enfin, vous voyez. Et donc du coup, j'ai plutôt tendance à travailler au cinéma, particulièrement sur une grande disponibilité. Voilà, c'est un truc qui se fait aussi beaucoup sur le moment et sur mélanger la vie et la fiction. Même par exemple, si je repense à Camille Redouble, par exemple, j'ai pas travaillé. Ah ben si, j'étais quand même allée voir des centres pour aveugles. Et c'est vrai que ça m'avait quand même nourrie. Mais après, je me souviens la scène où je devais annoncer que j'allais devenir aveugle. Je crois que je m'étais concentrée 4 minutes avant, ce qui inquiétait beaucoup Noémie. Mais en regardant le ciel bleu, et le bleu du ciel était tellement sublime ce jour-là. Je regardais ce qui se passait dans la cour de l'école et je voyais un homme transporter un landau. Et tout était tellement beau et je me disais, tiens, ça sans doute je le reverrai plus jamais puisque je vais devenir aveugle. Je me disais un truc comme ça. Et bon, là forcément, il n'y a même plus besoin de jouer, ça arrive quoi.
Alors on va voir comment... cette Adèle que vous interprétez dans Et plus c'est affinité vous est venue, mais il y a un rôle marquant sur lequel je voudrais revenir, celui de Patricia Coma. Dans Coma de Bertrand Bonello, Patricia, c'est une youtubeuse qui discute avec une ado confinée. Il faut dire que les conditions du tournage ont été quand même très particulières. C'était un peu, pas en douce, mais quasiment, parce que c'était en période de confinement. Et
en contrebande.
En contrebande. Alors, se retrouver ainsi seule face caméra... est-ce que ça vous a permis, Julia Faure, de lâcher des choses nouvelles, de faire appel à des émotions particulières? Parce que cette Patricia, c'est un personnage extrêmement complexe, ambigu, multiple.
Oui, oui, très paradoxal. C'est-à-dire qu'elle ne lâche rien jusqu'à ce qu'elle lâche, quoi. et quand elle lâche, elle s'effondre. Mais j'étais seule et à la fois pas seule du tout, parce que en effet Patricia Coma est seule avec la caméra, mais en vrai moi il y avait la caméra et Bertrand Bonello juste à côté de la caméra, donc j'avais très peur, alors que Patricia Coma n'a pas peur du tout. Et ça m'a aidée en fait à la jouer, de me dire à un moment il faut que je saute dans le vide et que je fasse semblant de pas avoir peur, quoi. Et puis après j'avais pas mesuré à quel point elle allait s'effondrer. Parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas bien lus dans le scénario. Pourtant, je l'avais lu 150 fois. Mais j'avais pas mesuré à quel point elle mettait la main dans le mixeur.
Oui.
Et voilà. Mais le personnage, oui, je le trouve très beau parce que elle-même, vous disiez que sur mon travail que je faisais souvent le grand écart entre Alain Françon, le boulevard, la comédie, le Bonello et tout ça. Et là, elle-même, elle fait un grand écart sans arrêt entre quelque chose d'horrifique, quelque chose de drôle et quelque chose de romantique. Et ça, c'était assez passionnant. Mais c'est pareil, ça se fait dans l'instant. Enfin, on invente sur le moment, quoi.
Et puis, on vous a vu et surtout entendu dans le dernier film en date de Bonello, La Bête, merveille, selon moi.
Oui.
Et il est savoureux que le film qui lui succède dans votre filmographie soit donc Et plus si affinité d'Olivier Ducret et Wilfried Méhance, parce que ça confirme encore une fois votre aisance à passer d'un univers à un autre en amenant évidemment votre singularité, mais au service d'un projet. Alors, pour ce film, il faut dire tout d'abord qu'il s'agit du remake de Sentimental, un film espagnol réalisé par Cesc Gay. Première question évidente, mais pas la réponse. Est-ce que vos metteurs en scène vous ont demandé ou vous ont montré le film Sentimental, le film original, entre guillemets ?
Non, ils nous ont rien demandé du tout. Mais moi, à un moment donné, au bout de ma 149e lecture du scénario, je me suis dit, tiens, je vais peut-être regarder quand même. Et puis honnêtement, j'ai trouvé notre scénario, mais tellement plus riche et plus drôle et plus profond que ça m'a complètement rassurée. Parce que j'avais peur de me prendre tout ce que j'aime de l'Espagne dans la figure, en fait. Je me suis dit, mon Dieu, mais nous, ça peut être terne par rapport à Victoria Abril, etc. etc. Et en fait, non, j'ai trouvé que ce vers quoi on s'embarquait avait l'air d'être beaucoup mieux.
Alors, le point de départ, c'est le suivant. D'un côté, on a un couple qui est ensemble depuis 25 ans, c'est Xavier et Sophie, interprétés donc par Bernard Campan et Isabelle Carré, qui se retrouvent seuls, avec leur manque de flamme depuis que leur fille est parti étudier à Londres. De l'autre côté, leurs voisins, Adèle et Alban, donc vous et Pablo Poli, et Sophie décide de les inviter à dîner, avec pour prétexte le fait de leur dire que leurs ébats amoureux très sonores dérangent profondément leur sommeil. Mais c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle elle les invite, ça le film le dira. Le film dure le temps de cette soirée, presque en temps réel, et évidemment c'est une soirée où il va se passer pas mal de choses. Alors quand même sur la question des rapports amoureux, écoutez, un cinéaste dont c'est le sujet central depuis toujours, c'est Emmanuel Mouret, au micro de Marie Richeux sur France Culture, c'était en février 2021.
Les histoires d'amour, c'est un thème, une thématique peut-être, mais je ne parle pas d'une thématique, c'est un lieu commun qui permet de faire des films à suspense, parce qu'il y a, du désir, mais pour pousser les choses plus loin, de parler de l'homme et des hommes entre eux, et c'est ça qui est, en tout cas, que je trouve passionnant, parce que finalement, sur l'amour, on sait tout ce que c'est que l'amour, et dès qu'on s'y interroge, dès qu'on essaie de penser de près, on a chacun des opinions différentes, diverses, et on sait plus très bien ce que c'est. Donc le domaine de l'amour, c'est une sorte de Far West, où chacun y va un peu de avec ses valeurs morales, et c'est pour ça que c'est passionnant. C'est une sorte de reflet de notre vie en société.
Alors, ce que dit ici Emmanuel Mouret s'applique parfaitement à Et plus si affinité, Julia Faure. On se dit que les histoires d'amour, et donc aussi de sexe, sont des révélateurs bien plus larges de ce que nous vivons. C'est une des dimensions passionnantes de ce film. Alors, je me permets une parenthèse, je le fais souvent. Ne vous fiez pas à la bande-annonce de ce film, qui ne rend pas justice à la finesse de celui-ci, pardon, pour celles et ceux qui l'ont fait, mais moi je milite depuis des années pour la suppression des bandes-annonces.
Oui, enfin,
bon. Mais quand on a un quatuor de comédiens dans un huis clos, on se dit qu'il faut que l'alchimie opère, ce qui est le cas ici. Il doit certes y avoir une part de magie, mais c'est du travail. Qu'est-ce que vous, Julia Faure, vous attendez de vos partenaires sur le plateau ?
Qu'ils me bousculent, qu'ils me surprennent, qu'ils me regardent le plus pour de vrai possible. Qu'il y ait aussi un peu de respect, quand même.
C'est pas mal, oui.
Mais déjà, tout ça, c'est déjà pas mal, je trouve.
Et qu'est-ce que vous, vous pensez apporter à vos partenaires de jeu ?
Oh, j'espère leur apporter la même chose, en fait. Mais qu'on soit vraiment ensemble, qu'on ait le goût du jeu ensemble, qu'on s'amuse. Et puis, vraiment, cette histoire de surprise, en fait. Enfin, moi, c'est le seul moment où j'ai l'impression, où je peux me fier à mon jugement, c'est sur mon travail, c'est quand j'ai l'impression de m'être surprise moi-même. Et donc, un partenaire qui va me surprendre et qui faire quelque chose d'inattendu et tout, bah évidemment que j'ai envie de l'embrasser tout de suite, quoi.
Alors, il y a bien sûr le travail des cinéastes, Olivier Ducret et Wilfried Mehans, que j'imagine extrêmement précis en amont, parce que forcément, c'est un film qui joue beaucoup sur les regards, sur les corps, sur des micro-mouvements. Est-ce qu'il y avait pour vous quatre sur le plateau justement cette chorégraphie très précise ?
Ben, là où on a eu une chance folle, c'est qu'on a pu tout tourner dans l'ordre. Vraiment commencer par l'apéro, puis l'entrée, etc. Et surtout filmer de très longues séquences. Filmer chaque séquence comme un plan séquence, après sous plein d'axes différents, mais on filmait des séquences de 12 minutes. Parfois. Et donc sous, je ne sais pas, 6 axes différents par jour. Donc c'était à la fois épuisant et en même temps, on pouvait vraiment fouiller, inventer, proposer, chercher toute la journée, épuiser la séquence en fait. Mmh. Et le lendemain, continuer sur le reste du film dans la continuité, donc avec tout ce qui a infusé pendant la nuit. Moi, je crois vraiment beaucoup au sommeil. Mais sinon, il n'y avait pas tellement... C'est-à-dire que là, ils avaient affaire à des acteurs eux-mêmes assez précis, hein. Bernard Campan est un acteur d'une précision redoutable. Mmh. Isabelle aussi. Pablo moins, mais Pablo, c'était justement celui sur lequel on peut compter pour tout faire dérailler, quoi. Donc ça, c'est génial. C'est très, très précieux. Et puis, parce que quand on filme 12 séquences, 12 minutes d'affilée, ça peut aussi ressembler à du théâtre au bout d'un moment. Et là, pas du tout. Grâce à l'alchimie entre nous, enfin, je trouve pas que ça ressemble à ça. Et même si, voilà. Et, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais voilà. Mais... Sur comment on avait travaillé avant, déjà, on a pas mal répété. On s'est pas mal vu quelques semaines avant le tournage pour créer cette alchimie, parce qu'entre Bernard et Isabelle, elle existe.
Oui, ils ont joué.
Ça fait 25 ans qu'ils jouent ensemble. Entre Pablo et moi, on s'est rencontrés, on a fait 2-3 lectures du scénario. Après, par chance, on s'est retrouvés dans le jury du Festival de Deauville, donc on a pu voir à quel point on n'avait pas les mêmes goûts. Et donc ça a créé quelque chose de très passionnel entre nous, de merveilleux pour notre couple. Et puis voilà, et après, non, c'était pas... Et par exemple, Isabelle, elle invente des choses assez burlesques, de mise en scène quasiment, quoi. Mais non, c'était pas... j'ai pas l'impression qu'on avait des trucs très précis à faire, quoi. On pouvait vraiment... mais après, on était tellement à l'écoute les uns des autres que ça nous demandait une concentration de samouraï, hein, l'air de rien. Ça a l'air très léger, mais ça demande quand même une concentration de malade, quoi.
Et avoir deux metteurs en scène, est-ce que la répartition des rôles entre eux est très claire, est-ce que, sur le plateau, ou est-ce qu'il faut faire avec les deux?
Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y en a toujours un qui est disponible. Donc j'ai jamais l'impression de déranger quand j'ai un truc à demander. Et puis sinon, j'avais l'impression que Wilfried était un peu plus près du cadre et Olivier plus près des dialogues. Mmh. Voilà. Donc plus près du cadre, c'est-à-dire de la direction d'acteur et tout, et Olivier plus près des dialogues et des voilà.
Alors, vous parlez des différentes prises, évidemment, la question du rythme, ce qui inclut justement aussi ces micro-temps de silence entre deux répliques. Vous disiez que des scènes tournées plusieurs fois, selon plusieurs axes. Mais est-ce que pour vous, alors, dans ce film-là et peut-être aussi dans les autres, Julia Faure, est-ce qu'il s'agit de tout donner dans la première prise ou justement de proposer des variations à chaque nouvelle prise?
Alors c'est drôle parce qu'en ayant commencé avec Garrel, où il est réputé, il est connu pour ne faire qu'une prise autant que possible.
Il vaut mieux être bonne tout de suite.
Oui, donc j'ai plutôt appris à... Mais après Garrel, il cherche tellement pas le vertige qu'il s'en fiche en fait de l'imperfection et des maladresses et de ce qui n'est pas performatif tout de suite, quoi. Mais ça, il y a que Garrel qui est comme ça, parce que généralement les autres réalisateurs, ils ont envie de performance d'acteur et tout. Garrel, il cherche une grâce, il cherche un truc, le moment, la poésie de l'instant en fait. Voilà, c'est ça qui lui importe. Alors que là, moi, j'aime bien maintenant construire sur la durée. J'aime bien. C'est vrai, peut-être je prends un peu de temps. Je démarre peut-être pas tout de suite. J'ai peut-être besoin de. J'aime bien faire plus. Moi, j'aimais bien passer en dernier quand on faisait plein d'axes là sur les séquences de 12 minutes. Ça me dérangeait pas de passer à 17 heures, quoi. Dans l'épuisement et j'ai l'impression de peut-être lâcher un peu plus. Et j'aime pas trop qu'on. Ouais, peut-être qu'au début, je réponds à. Je me mets trop de pression, quoi. Voilà, j'ai le trac et j'ai un trac à crever, en fait.
Toujours.
J'avoue, maintenant, en fin d'émission, j'ai un trac à crever. Et donc, j'aime bien qu'on commence sur mon partenaire, par exemple. Voilà.
quelques mots quand même aussi que je voudrais vous entendre dire quand même sur une série à venir. J'ai vu Becoming Karl Lagerfeld, vous interprétez Francine Cresson, grande figure du monde de la mode, qui a été rédactrice en chef du Vogue français de 61 à 84, ce qui n'est pas rien. Alors, je n'ai pas souvenir, peut-être que je me trompe, que vous ayez déjà interprété Julia Faure, une personne ayant réellement existé. J'ai peut-être pu passer à côté.
Non, c'est la première fois.
Et ça implique quoi, ça ?
Alors, il n'y a pas énormément de documents sur Francine Cresson, donc je me suis plus inspirée d'Anna Wintour, en fait. Mais je pense que Francine Cresson est la précurseur d'Anna Wintour, et qu'elle devait être le modèle d'Anna Wintour.
Oui.
Mais puis surtout, après, elle a épousé Massimo
Gargia.
Alors, ce que j'ai appris en cours de tournage, et ce qui a un peu plombé les recherches que j'avais faites sur elle... je la voyais en grande démiurge de la mode, et puis d'un coup, Massimo Gargia, j'ai pas compris le virage. Mais là, par rapport à ce qu'on disait juste avant, cette expérience est exactement tout le contraire. C'est-à-dire, on ne répétait pas, on faisait deux prises, pratiquement. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir trop de principes. Donc là, finalement, j'avais pas tant le trac que ça.
Voilà. Et un dernier mot, enfin, pour dire que vous faites aussi pas mal de doublage. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, on entend quand même qu'il y a une voix. Très belle voix, celle de Julia Faure. Cet exercice-là, c'est un exercice qui vous enrichit aussi en tant que comédienne, ou c'est vraiment quelque chose à part ?
Non, alors j'ai la chance de le faire avec un ou deux directeurs de plateau, comme on dit, qui sont vraiment merveilleux et qui m'enrichissent beaucoup, en effet. Parce que là, il y a une espèce d'amusement, mais... vraiment quasi enfantin, quoi, à faire ça. Et puis après, j'ai doublé par exemple Vanessa Kirby.
Dans Mission Impossible.
Ouais, dans Mission Impossible. Qui est une actrice que j'adore absolument. Et c'est absolument inaccessible de faire un truc aussi bien que ce qu'elle fait, les modulations, les trucs et tout. Donc on lâche aussi. En fait, c'est vraiment le doublage, je lâche complètement.
Vous n'avez pas le trac, là ?
Bah.
Moins.
Moi, je peux l'avoir en traversant la rue, le trac. Hein, donc, je peux l'avoir évidemment là, mais aussi. Mais non, pas plus que ça. Enfin, à un moment, la joie prend le dessus, hein, quand même.
Bon, on y arrive, à la joie. Il me reste à rappeler que vous serez donc demain à l'affiche du film Et plus ses affinités d'Olivier Ducret et Wilfried Méhance. Il faudra attendre le 7 juin pour vous voir dans la série Becoming Karl Lagerfeld sur Disney+. Merci, Julia Faure, d'avoir été notre invitée.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Quand Manu Chao publiait son album Clandestino en 1998, il ne pouvait pas se douter que le néologisme Alegría, qui donne le titre à l'une de ses chansons, donnerait son nom à l'album d'une artiste mexicano-américaine queer en 2024. Il faut dire que cette Alegría, cette joie teintée de douleur, douce amère dirait-on, est un sentiment éprouvé par la chanteuse et compositrice Fabi Reina, qui, par la force des choses, mène le projet musical Reina Tropical en solo suite à la disparition de son compère Nectali Diaz. Formé en 2016, le duo avait présenté deux EP enthousiasmant, Fabi Reina s'occupant de la guitare et de la voix, tandis que Nectali Diaz était en charge des parties rythmiques. Tous deux ont entrepris des voyages en Colombie, à Porto Rico et au Mexique où ils ont approfondi leur recherche musicale, riche de traditions culturelles et musicales diverses. Aussi bien anthropologique que polyrythmique, Alegría est un premier album empreint de cette diversité. Il résonne l'écho de la terre et des absents comme sur le titre Cartagena, notre son du jour.
te sientes de verdad.
C'était Cartagena de Reina Tropical, extrait de l'album Malegria.
France Culture, le grand tour.
Le grand tour, grand tour.
Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir ?
Bonsoir Arnaud, deuxième étape de notre découverte de la villa Kujoyama dirigée par Adèle Frémol, villa française à Kyoto, qui propose des résidences de recherche à des artistes français. Ce soir, je vous propose une initiation au Kyudo, ce tir à l'arc japonais en compagnie du circassien Thiriac Arrivel, et une plongée dans le tuning nippon avec la photographe Louise Mutrel.
Adèle, où est-ce qu'on vient d'arriver là ?
On vient d'arriver chez Kiyoshi Yamaguchi, qui est le sensei de Thiriac, le sensei de Kyudo. Donc depuis 4 mois maintenant. Thiriac vient quasiment tous les jours s'entraîner avec lui, soit ici dans son dojo, soit dans d'autres endroits, dans des temples ou dans différents terrains de pratique.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir pour ces quelques moments avec vous ici dans ce dojo. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici à Kyoto travailler sur cette discipline-là ?
Alors, en fait, ça fait 2 ans que je m'intéresse aux arts martiaux. En général, parce que le cirque a une histoire avec la guerre. Il a été inventé par un militaire au début du 19e, le cirque moderne. Et ça a donné plein d'attributs en fait, à la forme classique du cirque. Le cheval, le roulement de tambour, les musiques.
Et là ce matin, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça se passe une séance de travail ?
Comment ça se passe une séance de travail ? En fait, le kudo, c'est 8 gestes. Et du coup, c'est vrai que j'ai passé 4 mois à apprendre à faire 8 gestes correctement, à faire ce que je pouvais pour bien les faire. Et cet effort, en fait, pour tendre vers ce geste un peu parfait, c'est beaucoup pour finalement avoir un geste efficace, pour donner que toute la force du corps se transmette à la flèche et qu'il n'y a pas de perdition d'énergie. Et du coup, toute cette espèce de geste parfait est vraiment pour une efficacité. Et du coup, c'est la répétition de ces gestes-là. Et je répète ces 8 gestes inlassablement. Et voilà.
On a hâte de voir, merci beaucoup.
Watashi no shigoto carpenter.
Depuis quand il pratique cette discipline ?
Itsu kara kudo
ano 15 sai kara yatte orimasu. 今朝から78ですので約63年はい。
Depuis qu'il a 15 ans et comme il a 78 ans, ça va faire 63 ans.
Est-ce que en 4 mois quelqu'un qui vient de loin, qui vient de France peut réussir à apprendre les 8 gestes ?
それはまあ個人差にもよりますけども、まあ私のやり方やと4ヶ月あれば、
ça dépend vraiment des personnes, mais il pense qu'avec sa façon de faire, c'est possible d'apprendre effectivement les bases du kudo en, en une période de 4 mois.
Quelques mois. Et vous avez eu l'impression, de, pendant ces 4 mois, d'arriver quand même à maîtriser, alors maîtriser peut-être pas parfaitement ces 8 gestes-là, mais en tout cas, de vous les approprier ?
Je crois que je suis hyper loin, mais je suis arrivé ici, je faisais déjà du kyudo, et ce qui est super avec cette discipline, c'est que les conseils qu'on donne à ceux qui ont 63 ans d'expérience, exactement les mêmes conseils qu'on donne aux débutants, il y a une sorte de remise en question à chaque fois qu'on retire, qu'en fait rien n'est acquis.
Est-ce qu'on peut voir un bout de votre travail ici ?
Oui.
D'ailleurs, c'est bon.
Pas de problème.
Merci beaucoup.
Mezashite. Jindui ga minna nakayoku ikeru youni kyudo o manande iroiro hito to no tsukiai o kangaemashou.
Donc, il veut vraiment qu'on pense la pratique du kyudo comme une manière de bien s'entendre avec les autres et de contribuer et de viser la paix dans le monde.
Vous disiez que vous aviez commencé jeune, vous pratiquez toujours aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'encore apprendre de votre discipline ?
そうそう。63年やってもまだ完璧なことはできません。だから日々努力。
Donc, effectivement, 63 ans, il y a encore plein de choses à apprendre, que c'est impossible d'atteindre la perfection même sur une si longue période, et qu'il continue à faire des efforts et à pratiquer tous les jours. Ce qui est difficile du coup dans cette pratique, c'est que tu dois conserver ton équilibre en tenant l'arc, et en fonction de la manière dont tu tiens l'arc, bah, celui-ci peut être déséquilibré et donc le tir va pas être réussi, le bruit ne va pas être aussi bon non plus.
Donc là, on respire pendant 3 secondes. On expire pendant 5 secondes. Et donc en même temps que tu expires pendant 5 secondes, tu abaisses l'arc. Donc encore une fois, quand tu finis le tir, tu inspires pendant 3 secondes et en expirant pendant 5 secondes, tu baisses l'arc.
Tabaco sutte ano hito no. Bonjour, je m'appelle Louise Mutrel et je suis en résidence à la Villa Kujoyama pour 5 mois. Et vous êtes photographe donc, d'après votre mur dans ce studio ? Exactement, photographe et aussi plasticienne, voilà. Alors on vient de rentrer dans votre studio qui est un des 6 studios de la Villa Kujoyama. Est-ce que vous pourriez nous le décrire en quelques mots ?
Oui, il est composé de 2 murs sur lesquels j'ai commencé à faire une espèce de constellation d'images, des images que j'ai produites déjà depuis les 2 derniers mois, qui rassemble du coup des photographies de meetings, de camions et aussi de rides de moto que je fais à Osaka.
Parce que c'est le sujet sur lequel vous êtes, pour lequel vous avez postulé à la Villa ?
C'est ça. J'ai postulé à la Villa avec un projet autour des communautés de tuning au Japon, qui sont les Dekotora, qui sont des camions japonais. C'est des communautés qui existent depuis les années 70, qui ont un peu disparu, qui ont été aussi interdits par les autorités locales dans certaines villes, de rouler. Et,
alors là, ça veut dire que dans votre travail, vous allez dans des endroits où ils se réunissent malgré les interdictions ?
C'est ça. Alors, concernant les camions, donc les Dekotora, eux, ils ont créé maintenant des associations où ils se retrouvent lors de rendez-vous officiels sur des lieux, donc c'est totalement autorisé. Par contre, ils ne sont pas forcément autorisés encore à rouler de nuit, parce qu'ils sont composés de plein de lumières, ils sont très...
très flashy, on les voit là sur vos photos. Est-ce que le projet final, là, on voit un mur d'images devant nous, ce sera quoi ? C'est un livre, une exposition ?
Oui, alors j'ai postulé à la Villa Kujoyama en écrivant ce projet dans l'idée de réaliser un livre. Du coup, j'ai vraiment chapitré mon projet, en fait je l'ai vraiment écrit dans l'idée de réaliser un livre. Et du coup, il se chapitre aussi avec, en traversant ces différentes communautés qui sont les Dekotora, les Kyushakai Bosozoku et les Dekochari qui sont sur ce mur aussi, qui sont les adolescents qui customisent des vélos à l'effigie des camions, des Dekotora.
Ah oui, donc c'est une mise en abîme.
Voilà, et souvent c'est les enfants des conducteurs des Dekotora qui n'ont pas de licence.
Est-ce qu'il y a une photo là sur ce mur d'image qui est devant nous que vous pourriez nous décrire, que vous aimez particulièrement ou qui est caractéristique de votre travail ?
Oui, alors on peut passer sur celle-là. C'est une photographie que j'ai faite au premier meeting durant ma résidence, qui était à Ibaraki, donc préfecture banlieue voisine de Tokyo. Et donc le camion qu'on voit sur l'image, il est photographié de côté. Donc c'est un Dekotara qui s'appelle Star, qui a des formes très élancées et profusées. Et là, on voit vraiment sa carrosserie, donc comme son flanc, qui est totalement en miroir. Et donc, il y a tout l'espace du meeting qui se reflète dedans. C'est un aspect des Dekotora qui m'a vachement touchée. Et en termes d'image, qui m'a beaucoup attirée, où ces objets, ça devient autre chose que des camions. Et là, on est une espèce d'objet miroir qui genre, avale tout l'espace et toute la lumière. Esthétiquement, en tout cas, il y a quelque chose dans ces images, je trouve, qui résume bien ce que j'ai trouvé dans ces objets. Ouais.
Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Eh bien, demain, Arnaud, suite de notre semaine spéciale avec la Villa Kujoyama, avec notamment la visite d'un atelier de tissage à Kyoto et la rencontre avec une star du bambou à Osaka.
Merci Marie, et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.